إن الشرك لظلم عظيم. Car le fait d'associer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal est une injustice énorme. Le prophète sallam dit à Ibn Abbas, à un enfant, Ya ghulam, inni mu'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadk, ihfadillah yahfadk, ihfadillah tajidhu tujahak. Ghulam était encore un enfant qui était derrière le prophète, sur la même monture derrière le prophète sallam. Et le prophète s'adresse à lui en disant, Ya Ghulam, écoute-moi, je vais t'enseigner quelques paroles, quelques sagesses, retiens-les. Regardez quelle manière d'enseigner, quelle manière de s'adresser à l'enfant comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i, à l'âge de 7 ans, il connaissait le Coran entier. Coran entier, il connaissait le Coran entier. Il a appris par cœur le Muwatta de l'imam Malik à l'âge de 10 ans. Rahimahullah. Le 8e droit de l'enfant, c'est le droit à la correction quand il commet des fautes. C'est un droit de le corriger. Le fait de corriger l'enfant quand il fait des erreurs, quand il fait des bêtises plutôt, c'est un droit de l'enfant. Car à cet âge-là, il ne sait pas distinguer le bien du mal dans beaucoup de cas. L'enfant n'a pas encore bien compris, n'a pas bien encore assimilé ce principe de faire la distinction entre le bien et le mal. Des fois, il croit que ce qu'il fait est bien, mais en vérité, il est mal. Il est mauvais. Certains parents musulmans, ils te disent, laisse-le, c'est encore un enfant. Laisse, c'est la nature qui va lui apprendre. Laisse-le regarder les mauvaises choses à la TV. Un jour, il comprendra. Laisse-le écouter la musique. Un jour, il comprendra. Laisse-le voler. Un jour, il comprendra. L'enfant qui vient voler devant le père et la mère, et le père qui est content, il dit, mon fils, il est taour, masha'Allah. Il est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a apporté une radio cassette. L'enfant, il est très intelligent. L'enfant, quand il entend ça, une approbation de la part du père, et pour lui, le père, c'est un modèle à suivre, malheureusement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui apporter le lendemain une voiture. Pas une radio cassette. Corriger l'enfant est un droit pour l'enfant. Est un droit de l'enfant, est un devoir des parents, le corriger quand il fait des bêtises. Mais là, il faut garder le juste milieu. حق التأديب التأديب تأديب الطفل هو حق من حقوق الطفل ولكن ينبغي أن نبقى في الوسط, le juste milieu. Ne pas exagérer et ne pas négliger. Ne pas, chaque fois que l'enfant fait une erreur, tu viens le critiquer, lui faire des reproches. Ou bien certains parents, chaque fois que l'enfant commet une bêtise, fait une bêtise, eh bien c'est le hrawa directement. Et certains frères qui ont la patience, masha'Allah, ils font rien, ils voient leurs enfants faire des bêtises pendant 2-3 jours, ils lui disent, Aouldi, Allah yardali, ne fais pas ça. Il laisse passer une fois, deux fois, trois fois, il dit, masha'Allah, le père il a beaucoup de patience. Quelque temps après, un jour, il est en colère, le père, il met le hisab, tout. Le hrawa, il le massacre. Il a fait, pourquoi tu l'as massacré? Tu dis, ça fait une semaine ou un asab. Et c'est pas la manière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné toute une série de règles à suivre quand on veut corriger l'enfant. Pas n'importe comment. Le 9e et l'avant-dernier droit de l'enfant que je citerai, c'est le droit à l'allaitement. Le droit à l'allaitement. حق الرضاعة. حق الرضاعة, le droit à l'allaitement. Allah Azza wa Jal a consacré tout un verset dans le Coran Karim, dans Surah Al-Baqarah. Il dit, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Hein? Haqq al-rada'a. Le 10e droit de l'enfant, c'est al-nafaqa. Al-nafaqa. Dépenser de l'argent pour ses enfants. C'est un droit de l'enfant. Comment un père ose-t-il, subhanallah, acheter une voiture à 900 000 francs?
et son enfant a une chemise qui n'a pas changé depuis 9 mois. Son enfant vit dans de l'humidité, pas de chauffage. Il lui donne 20 francs sur 3-4 mois. Et lui, il a une voiture de 300, 400, 500, 900 000. Il dit, Anta wa maluka li abik. Même toi, tu m'appartiens, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a oublié que l'enfant a des droits sur son père. C'est un droit de dépenser de l'argent pour sa famille. Parmi les pires des péchés, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de négliger sa famille financièrement. D'aller éparpiller de l'argent à gauche et à droite et de laisser sa famille dans le besoin, de laisser ses enfants dans le besoin, ils vont aller voler, ils vont aller agresser. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم دينار أنفقته في سبيل الله un dinar, les dinars c'était des pièces en or qui pesaient à peu près 4 grammes à l'époque du prophète sallam un dinar que tu donnes في سبيل الله comme sadaqa دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة et un dinar que tu as donné pour affranchir un esclave à l'époque ودينار تصدقت به على مسكين un dinar que tu as donné comme sadaqa pour un miskin ودينار أنفقته على أهلك et un dinar que tu as donné que tu as dépensé pour ta famille pour tes enfants le meilleur de ces 4 cas de dépense أعظمها الذي أنفقته على أهلك le meilleur c'est l'argent que tu as dépensé pour tes enfants et ta famille il dit dans un autre texte sallallahu alayhi wa sallam الحديث الذي رواه الحاكم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود c'est un péché de négliger les enfants qui sont à ta charge et ta femme qui est à ta charge ou bien la femme qui a de l'argent et qui a un mari qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de travail qui n'a pas de revenus et qui elle a de l'argent Elle dit, moi je ne suis pas obligée de subvenir aux besoins de la famille. C'est une grave erreur. Elle sera responsable, Yawm al-Qiyam, elle sera interrogée pour ses enfants, elle aussi. L'épouse de Abdullah ibn Mas'ud qui vient chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, j'ai de l'argent pour sadaqa. J'ai de l'argent de sadaqa. Je veux le donner à mon époux, à mon mari, ibn Mas'ud, car il n'en a pas. Il est pauvre. Est-ce que... islamiquement m'est-il permis de lui donner cette sadaqa le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit si tu donnes cette sadaqa, cet argent à ton mari eh bien tu seras doublement récompensé la récompense pour la sadaqa et la récompense pour les liens qu'il y a entre vous aujourd'hui c'est la plupart des cas de divorce c'est à cause de l'argent entre le mari et la femme et je m'arrête sur ce point concernant à propos des droits de l'enfant il y en a d'autres mais inshallah Quand on arrivera aux questions-réponses, on peut les traiter, inshallah. Subhanahu wa ta'ala. Wa jazakum Allahu khayran. Subhanaka Allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Là ne sont que quelques droits, bref, résumés. Si on veut parler des domaines de l'éducation, les domaines auxquels touche l'éducation, ils sont énormes et vastes. Et chaque point, on peut faire toute une conférence pour chaque point, que ce soit l'éducation, au niveau du culte, apprendre à l'enfant le culte, l'ibada, lui apprendre le dogme, l'aqida, lui apprendre le comportement, l'éducation psychologique, at-tarbiya an-nafsiya, l'éducation physique, corporelle, l'éducation au niveau sexuel, tarbiyah jinsiya, des enfants musulmans, l'éducation au niveau de connaissances et savoirs, éducation sociale, etc., etc. Chaque sujet peut être traité dans une conférence à part. Mais dans les questions-réponses, inshallah, on va parler de certains points importants et répondre aux questions des frères et sœurs. Wa jazakum Allahu khairan wa barakallahu.
Donc, pour rappel, nous avons vu ensemble l'importance du thème de l'enfance et de l'éducation de l'enfant. Nous avons vu en deuxième point comme que signifie l'éducation et nous l'avons défini ensemble. Ensuite, les institutions éducatives qui participent à côté des parents donc au rôle éducatif. Brièvement, nous avons revu l'enfant, le nouveau-né et sa maturation vers l'âge de l'adolescence. Nous avons parlé comme cinquième point de la persévérance des parents à l'éducation. Ensuite, les droits des enfants et les domaines de son éducation qu'on a passé assez vite. Et enfin, comme septième point maintenant, c'est les conseils éducatifs. Alors, j'aimerais revenir sur un petit point concernant le droit du père, donc dont Adil nous a parlé, concernant donc les invocations avant la naissance, pendant la grossesse et après. Donc, au Shahid Indana, il y a des études qui montrent, pour les frères qui veulent plus de renseignements, qui montrent que dès le septième mois, donc le fœtus réagit au son du père, qu'il reconnaît déjà les sons du père et la voix du père et de la mère. Donc déjà pendant la grossesse, évidemment, lisez le Coran, lisez des hadiths alors que la mère est présente, évidemment, de telle manière que l'enfant déjà là, vous prédisposez déjà l'enfant à ce qu'il reçoive plus tard un message éducatif musulman. Pour les frères qui s'intéressent, nous avons des informations à cet égard. Concernant l'identité et le droit de l'enfant au nom. Comme a dit l'Akh Adil, « Yani ahab al-asma illallah, abdullah, wa abd asma Allah al-husna. » Le nom, c'est ce qui donne l'identité à l'enfant. Et cette identité, donc, il va la garder, bien évidemment, toute sa vie. Et alors, masha'Allah, ici, dans ce Abdullah, on voit que l'enfant est directement rattaché à Allah, Azza wa Jalla. C'est l'uboudiyya. Yani, l'enfant est rattaché à Allah, subhanahu wa ta'ala, wa fi hikmah adhima, masha'Allah. Alors, en ce qui concerne les conseils éducatifs, il n'y a pas d'âge en fait pour l'éducation. L'éducation, c'est avant la naissance, à la grossesse, pendant la grossesse, après la naissance évidemment. Donc il faut commencer très tôt, dès les premiers moments de la vie, à ce que l'enfant soit habitué aux valeurs musulmanes. Avec des mots très simples, il y a moyen d'apprendre aux enfants الأركان الإيمان هي moyen d'apprendre aux enfants ما هي معنى الله لا إله إلا الله. Lorsque vous voyez des choses dans la nature comme les montagnes, la mer et d'autres choses qui sont extraordinaires, dites Subhanallah. Et le modèle du père Qudwatul Ab wa Qudwatul Um, on n'y reviendra jamais assez, dans les invocations qu'ils disent lorsqu'ils voient des choses extraordinaires, sont bourrées de sens pour l'enfant qui va répéter ces mots. Lorsque vous dites, lorsqu'on voit quelque chose et que vous dites la hawla wa la quwwata illa billah, vous allez voir que lorsque vous le dites souvent, même vos enfants vont commencer à le dire. Lorsqu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans la maison, lorsqu'ils cassent un verre, vous verrez que automatiquement ils ont ce réflexe. Pourquoi? Parce que vous les avez éduqués. Vous avez éduqué votre langue d'abord et leur langue après à ce genre d'invocation. Donc ça, c'est en ce qui concerne Dab Imania. Apprenez-leur aussi la bonté. Apprenez-leur, lorsque vous faites un acte généreux et qu'ils sont, que l'enfant est avec son père, montrez-lui que vous le faites parce que vous voulez la reconnaissance d'Allah Azza wa Jalla. Donc que tous les comportements soient bourrés de sens pour l'enfant. Lorsque vous donnez aux pauvres, apprenez à vos enfants à aimer al-du'afa wal-masakin et à remercier et à glorifier Allah Azza wa Jal de la bonté qu'il vous a donnée. L'adala aussi, je voudrais revenir sur la justice envers les enfants. Yani, les parents doivent absolument être justes envers leurs enfants. Kanu ba'd al-salaf, si il embrassait son garçon, son petit garçon, il allait en courant embrasser sa petite fille juste après. Et c'est un petit exemple qui doit être reproduit à plusieurs niveaux, bien évidemment. En ce qui concerne la séparation des filles et des garçons, donc, moi je conseille toujours, je suis toujours étonné des frères en fait, qui premièrement laissent leurs enfants dormir avec eux, mais je déconseille ça. Ne laissez pas vos enfants aussi se mettre entre vous dans le même lit, ça ne se fait pas. Il faut que les enfants, que vous appreniez aux enfants que la chambre des parents est un endroit qui est sacré et qu'on peut y rentrer, comme قال الأخ عادل والنصوص تدل على ذلك, qu'après avoir demandé la permission aux parents, etc. Donc apprenez-leur également qu'il y a une certaine séparation à certaines heures, de la journée et de la nuit. Alors apprenez aux enfants la pudeur. Et la pudeur, on n'apprend pas à 18 ans. On ne demande pas la fille à mettre hijab à 18 ans. Le hijab, c'est qu'un petit exemple. La pudeur, c'est plus que le hijab. Hein? Donc, que les mères apprennent d'abord qu'elles soient un exemple de pudeur pour leurs filles. Apprenez à vos garçons à ce que personne ne voit ces parties intimes, à la fille également, et que personne ne viole cette intimité. Hein? Et que le père également ne viole pas cette intimité, l'intimité de sa petite fille. Qu'il y ait une complicité ici entre la mère et la fille, et le père et le fils. C'est clair? Cette complicité est très importante. Rabb al-Bassar lui apprend tout petit à ce qu'il ramène aussi son regard. Hein? Ne pas laver dans le même bain fille et garçon. Ça fait partie aussi de la pudeur. Il y a des couples malheureusement qui lavent. Je trouve ça tout à fait naturel de laver ce sont que des enfants. Alors ne laissez pas les petits garçons accompagner les mères dans les mariages, et même les mères ne les laissez pas aller dans les mariages si ce n'est pas dans les limites que nous demande Allah Azza wa Jalla. Alors, habituez aussi, il faut que toute la maison tourne autour de la notion d'Allah Azza wa Jalla. Le Coran, l'Ahadith, c'est-à-dire que toute votre vie et que toute la vie des parents tourne autour, قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. Je critique fort donc la TV à la maison. Faites attention à la TV, on n'y reviendra jamais assez. Et que si vous avez une TV, qu'elle soit pas dans un endroit, le salon, donc l'endroit où la famille s'assit en communauté. Sauf si vous avez rien, sauf si c'est pour un magnétoscope où vous voyez bien sûr l'Ashrita Dinia Roman. Apprends aussi à tes enfants à ce qu'ils répondent à ton appel lorsque tu les appelles, que ça se fasse de manière douce et gentille, hein. Bien sûr qu'il n'élève pas la voix. Lorsqu'il élève la voix, apprends-lui que ça ne se fait pas, de manière encore une fois douce. Lorsqu'il y a une erreur de la part d'un enfant, il ne faut pas qu'il y ait une sanction immédiate, mais la sanction d'avenir étape par étape. Hein? Et le fait de frapper, d'abord c'est interdit ici. Et puis si vous frappez vos enfants, ça doit venir, c'est l'étape. La dernière des étapes, d'accord, après avoir essayé tous les moyens nécessaires pour que le message passe. Alors, on parlait, pour réveiller un peu la personnalité de l'enfant, demandez-leur leur avis sur certaines choses. Ne demandez pas leur avis sur le prêt en banque que vous allez faire, sur des choses qui sont très simples, hein, tout en lui apprenant que le dernier avis est celui des parents. Hein? Donc, vous l'invitez à ce qu'il intervienne dans la discussion, tout en lui apprenant que, bien évidemment, que c'est les parents qui ont le dernier mot sur la question. L'éduquer, ça c'est pas facile, à ce qu'il réprouve le répréhensible et exhorte au bien. Il y a une famille de nos connaissances, il y a une femme qui est venue dire bonjour en serrant la main à un enfant, il lui a dit là, Adela, il a dit, il est tout petit hein. قال لا هذا هذا لا يجوز هذا حرام حرم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. Là encore, étape par étape, ou al-aham bil-aham. Alors, lui apprendre l'autodiscipline, à ce qu'il se discipline lui-même, lui apprendre l'ordre à la maison, à ce qu'il ordonne aussi sa chambre. Éviter, si l'enfant a une prédisposition à la colère, éviter de le mettre dans des situations colériques. Donc, là, les parents doivent très vite repérer si leurs enfants sont un petit peu prédisposés à la colère, de telle manière à annuler cette colère et pour que ça ne devienne pas une habitude plus tard. Donc il faut lui apprendre qu'il y a d'autres mécanismes de défense que de tomber par terre de gesticuler. Alors la réussite scolaire des enfants en bas âge, c'est important, mais c'est pas tout. Hein? Il faut savoir que l'échec scolaire n'est pas la fin de tout. Et d'où la capacité des parents ici à voir la manière dont, quelles sont les capacités de leurs enfants. D'accord? Et n'oubliez pas qu'un échec scolaire en bas âge ne veut pas dire pour autant que l'enfant, je ne veux pas être méchant, mais que l'enfant est bête. Hein? Ça ne veut rien dire. Donc cette période d'âge, les enfants sont capables de très vite récupérer en 2-3 mois un retard de 3-4 ans. Mais Masha'Allah, ça c'est par expérience. Donc souvent les échecs scolaires à cet âge-là marquent ton indice de quelque chose qui ne va pas dans la famille, dans l'entourage, dans la famille, le père, la mère, quelque chose éducatif qui choque les enfants. Hein? Donc l'échec scolaire marque l'indice ici de quelque chose qui ne va pas. Donc il faut voir ici ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Hein? Il faut remplir le temps de vos enfants. Ne laissez pas beaucoup de temps libre à vos enfants. Ayez un droit de regard sur les amitiés de vos enfants, bien évidemment. C'est important que les enfants aient d'autres enfants comme amis. Hein? Ils ne restent pas seulement entre adultes. Lorsque vous l'amenez à la mosquée, il faut lui apprendre que la mosquée Baytullah et qu'il y a un respect. Mettez-le à votre droite et à votre gauche, ne les laissez pas s'éparpiller et qu'ils n'intériorisent pas la mosquée comme étant la cour de récréation aussi, que c'est un respect au Hadabaytullah et qu'il faut respecter les musulmans. Le rapport aux personnes âgées, donc c'est important ici que les parents apprennent à leurs enfants comment se comporter face aux personnes âgées. Passe aux voisins, le respect des voisins est important et commence dès les premiers moments également. Ne fait pas trop de bruit. Pourquoi? Il faut lui expliquer que ça fait partie de haqq Allah et que Allah donne aux voisins, qu'il faut respecter leur quiétude, etc. Les destinations des vacances, il ne faut pas aller à la Costa del Sol avec vos enfants. Hein? Il faut investir des destinations de vacances qui ont un sens pour eux. Hein? Donc, essayez toujours de prendre, si vous allez en vacances, de prendre des destinations qui ont une forte valeur symbolique en termes musulmans. Mecca, Medina, si vous allez au Maroc, vous expliquez que c'est pour voir les grands-parents et lorsque vous êtes là-bas, bien sûr, il faut essayer d'éduquer vos enfants à la mosquée, à l'Aden, etc. Toutes des choses en fait qui n'existent pas ici. N'allez pas à la Costa del Sol. Hein? Les disputes. Alors un point très important, ce qui concerne les disputes entre papa et maman devant les enfants. Yani barakallahu fikum. Yani un peu de maturité des parents et d'intelligence pour qu'ils ne se disputent pas devant leurs enfants. Alors de deux choses l'une. Et surtout que le père ne soit pas violent envers la mère. Hein? Peut-être qu'en Belgique, c'est le contraire. Donc, surtout que le père ne soit pas violent envers la mère. Deux choses l'une. Soit, et ça c'est naturel, soit l'enfant va détester le père parce qu'on prend toujours la défense de l'opprimé, soit il va détester le père, hein, parce qu'il voit sa mère qui pleure, soit le contraire. Il ne va plus respecter sa mère parce qu'il a investi tellement le modèle du père qu'il s'identifie à lui et qu'il croit qu'il est au-dessus de tout. Donc, perdant dans les deux cas. D'accord ? Si l'un des parents n'est pas d'accord avec la manière d'éduquer, que ça ne se passe pas devant, qu'on ne dise pas ça devant les enfants, que ça se fasse à tête reposée entre les parents, d'où l'intelligence d'un des deux parents, hein, à être très calme dans ces situations, pour prendre un peu de recul et alors discuter et dire voilà, donc j'ai pas apprécié en fait que tu fasses ceci et cela. La langue, yani a dit nasiha lil-um. Yani la plupart des parents, donc nous on a été éduqués par nos parents. Nos parents parlaient l'arabe, parlaient le darija. Hein? Et regardez l'effet de notre immigration ici. Nos parents parlaient l'arabe et nous, en une génération, on a perdu la langue. En une génération, Allah al-Musa, on parle tous en français. Entre nous, on parle en français. Donc, qu'on ne répète pas la même faute vis-à-vis de nos enfants, et ça c'est très important, qu'on parle avec nos enfants au maximum, mais qu'on fasse un effort extraordinaire pour parler avec eux en arabe ou en darija. C'est très important, les croix. De telle manière qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs, hein, et qu'on ne se retrouve pas de nouveau à apprendre notre religion, parce que ça, regardez l'effet en une génération. Imaginez dans 2, 3, 4 générations, les croix. Pour là, ceux qui sont pessimistes disent que dans 3-4 générations, nos enfants ici, à des choukoukoufar, ou à des choukoukoufar. Alors, une erreur à ne pas commettre aussi, ça c'est pour les enfants qui sont proches de l'adolescence, pour les enfants qui sont turbulents, ne les foutez pas dehors. Parce qu'est-ce qu'il y a dehors, c'est pire. Allahumma sabar ala ada al-ibn, ou ma djerijal. Il y a dehors, mashallah, c'est pire. La présence, bien sûr, du père est importante. Hein? Donnez du temps à vos enfants. Il faut qu'on donne du temps à nos enfants. Il faut qu'on donne du temps à nos enfants. Donnez du temps pour éduquer. On ne joue même pas avec nos enfants. C'est une chose qui fait avoir de la rahma kbira. Les qulub, fait avoir de la rahma kbira. On a gamme qu'un doua kbira. Donnez du temps à l'éducation de vos enfants. Parce que c'est vraiment, yani, ce qui est en jeu là, c'est vraiment quelque chose de très important. Yani, huwa hifd al-atfal, yani. Alors, raconte-lui des histoires avant qu'il aille dormir. Raconte-lui des histoires. Pas les histoires de Papa Noël ou Knaoui. Raconte-lui les histoires de Sahaba ou l'Anbiya, Qissat l'Anbiya. Yani, toutes les choses encore que l'islam soit vraiment yani, l'ossature de notre vie. Hein? Que tout se rattache à ça. Wallahu a'lam. Le point que je voudrais ajouter, ça concerne un problème qui est dans la plupart des foyers, des couples, qui ont, surtout les jeunes couples qui ont des enfants très très jeunes. C'est les questions posées par ces enfants, les questions qui se répètent, la quantité de questions, la nature de ces questions, etc. C'est un problème qui est posé chez beaucoup de frères et sœurs. La réaction des parents est souvent négative vis-à-vis de ces questions de leurs enfants, notamment quand les enfants commencent à parler, commencent à comprendre et à chercher à comprendre, à chercher des réponses à leurs questions. Et souvent, comme j'ai dit, la réaction des parents est négative. Il y a soit un refus de répondre aux questions des enfants, il y a une négligence, il y a une incompréhension vis-à-vis de cet enfant et de la nature de cet enfant, de ses questions. La première question que je veux poser, c'est la suivante, et la suivante: pourquoi les enfants posent-ils autant de questions? Les raisons sont très très nombreuses. La première, c'est l'envie de découvrir l'entourage dans lequel l'enfant vit.
c'est une chose qui est tout à fait normale. L'enfant qui était hier une page blanche dans un autre monde, il vient de sortir dans un monde qui est le nôtre ici, il découvre des choses nouvelles, il voit des choses nouvelles, il entend des paroles nouvelles, tout est nouveau pour lui. Il a envie de découvrir ce qu'il y a dans son entourage, dans sa chambre, dans la cuisine, dans le salon, dans la poche de son père et de sa mère, il prend les bics. Il va là où on lui a interdit, c'est là qu'il va, c'est là qu'il attaque. Pourquoi ? Il a envie, on dit que c'est quelqu'un, subhanallah, quand on voit chez nous, on voit quelqu'un qui bouge beaucoup, un enfant qui bouge beaucoup, on dit, Ada, mashallah, safi, al-wild ma'aktif radikoun. Je ne sais pas comment il va devenir quand il sera grand. Alors que le contraire, on doit se poser la question quand on voit quelqu'un de très calme, à cet âge-là, trop calme, là il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il a ? Il y a un problème. C'est pas normal qu'un enfant reste trop calme. C'est pas normal, en général. Alors si on voit un enfant qui est très, qui bouge beaucoup, qui pose trop de questions, etc., c'est un point qui est positif. Mais il faut savoir comment réagir vis-à-vis de cet enfant. Donc la première raison pour laquelle il pose trop de questions, c'est l'envie de découvrir l'entourage dans lequel il vit. La deuxième raison, c'est le besoin de comprendre ce qui se passe. Il découvre des choses, mais il ne sait pas pourquoi elles sont là. Il entend des paroles, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'elles veulent dire. Alors il veut comprendre. Il voit le père qui sourit, mais il ne comprend pas pourquoi. Il veut comprendre. Il voit quelqu'un qui pleure, il veut comprendre pourquoi. Il voit une chose qui est cassée, il veut comprendre. Chaque chose qui bouge, qui change dans la maison, il veut comprendre. Et c'est aux parents de lui donner la bonne réponse. La troisième raison, c'est l'angoisse de l'enfant à l'égard de certaines choses dans son entourage, ou bien de certains objets. Il ressent des fois de l'angoisse, il a peur. Il veut savoir, il pose des questions. Pourquoi il y a cet objet qui est là-bas? Et des fois, quand on achète pour la première fois une voiture pour un enfant, des fois il a peur, surtout si la voiture est téléguidée. Elle a peur. Mais dès qu'il découvre cette voiture, eh bien, la première chose qu'il fait, il la casse. La première fois, il n'a pas encore compris qu'est-ce que ça veut dire cette voiture. Il a peur de cette voiture, de cette chose qui est nouvelle pour lui. Alors il pose des questions. La quatrième raison pour laquelle on pose aussi trop de questions de la part de l'enfant, c'est l'envie, cette envie de s'affirmer, de dire je suis là. Je suis là, faites attention à moi. Parce que des fois, et là c'est un point qui est très très important, dans les familles où il y a des enfants qui ont à peu près le même âge, il y a de la jalousie qui se crée entre les enfants. Il y a 2 ans, il était tout seul dans ce foyer, dans cette maison, il était tout seul. Entre ses parents, il était gâté, il avait tout ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il voit quelqu'un de nouveau qui arrive, lui prendre sa place. Et on voit d'ailleurs certains enfants, les premiers jours, il accueille bien le nouveau-né. Peu après, les parents qui ne font pas attention, ils sont tous autour du nouveau-né, ils oublient le premier. Alors le premier, qu'est-ce qu'il fait ? Il profite de la moindre occasion pour aller mettre son doigt dans les yeux du nouveau-né. Essayer de lui mettre le doigt dans l'œil, de le griffer, etc. Pourquoi ? Il voit qu'il est oublié, il a ce sentiment qu'il est oublié par les parents. Et cette jalousie peut même causer la mort pour un des enfants. Et on a un exemple dans le Coran Karim qu'il ne faut pas oublier. C'est toute l'histoire de Youssef alayhi salam. Il ne faut pas oublier. 11 enfants, 11 fils d'un prophète, Yaqub alayhi salam, qui veulent tuer leur frère. Pourquoi ? Parce qu'il était plus aimé par le père. Ils ont voulu le tuer. Ils l'ont mis dans un puits. Il a été pris par une caravane, vendu comme esclave en Égypte. À cause de quoi? Cette jalousie qui se crée entre les enfants. Et pour remédier
à ce problème, des fois, il faut donner l'importance au premier, à cet enfant, qui a ce sentiment, aussi lui donner des responsabilités. Au lieu d'aller chez le nouveau-né, lui donner, par exemple, quelque chose, des fois, il est préférable de le donner à cet enfant qui était déjà là. De lui donner, de lui dire, tiens, prends ça et donne-le à ton frère. Va prendre la tute de ton frère, etc. Il ressent comme s'il était un père. Il a une responsabilité, il a un rôle à jouer dans la famille. Et ne pas le nier, le laisser là comme si c'était un objet. Une des autres raisons pour lesquelles l'enfant pose trop de questions, c'est l'envie de ressembler aux grands. يحاول أن يثبت أو أن يقارن نفسه بالكبار. Il voit son père, par exemple, comme a dit le frère Hicham, il voit le père qui hausse la voix à la maison, même l'enfant il veut hausser la voix, il veut ressembler au grand. Alors il commence à poser trop de questions. Il voit le père qui pose des questions au frère qui vient de l'école. Pourquoi tu es arrivé en retard? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs, etc. Eh bien l'enfant, des fois, il veut aussi poser des questions. Voilà un enfant de 2 ans, il dit à son grand frère, hey, où tu étais? Masha'Allah. Il y a aussi une chose qui est tout à fait normale. C'est que l'enfant, plus il avance dans l'âge, plus il va parler, plus il va poser de questions. C'est tout à fait normal. Il y a un développement, une évolution de son langage. Et il est tout à fait normal. Il a appris beaucoup plus de mots. Il aura plus besoin de comprendre certaines choses. Alors il pose plus de questions, qui est une chose tout à fait normale. Le deuxième point, c'est quelle est l'importance de poser les questions de la part des enfants? Est-ce que le fait de poser des questions a une importance? Eh bien, le premier point le positif, ou bien la première conséquence positive de poser des questions de la part de l'enfant, c'est de réaliser cet équilibre psychologique chez l'enfant. Si il a une chose qu'il n'a pas compris, ou bien il a de l'angoisse, il pose des questions, on lui donne la bonne réponse, il comprend, eh bien on le remet dans cet équilibre psychologique. Il avait peur de quelque chose, il croyait que une telle chose est mauvaise pour lui, et que le fait qu'il aille dans la cuisine tout seul, il y a quelqu'un qui l'attend derrière la porte. Eh bien le fait de lui apprendre, de lui donner la réponse convenable, casse ces illusions qu'il avait et répond à ces questions, et l'enfant revient à l'état normal et à l'équilibre normal, à l'équilibre psychologique, à son équilibre psychologique. Et aussi par ces questions qui sont nombreuses et qui sont des fois répétées, l'enfant arrive à développer les opérations de réflexion. Si un enfant ne parle pas trop, il ne pose pas de questions, on ne lui répond pas à ses questions, eh bien, il sera beaucoup moins, son cerveau sera beaucoup moins développé que quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un qui reçoit des réponses, des bonnes réponses. Si on met quelqu'un dans une forêt où il n'entend pas de mots, on ne lui parle pas de langage, il ne saura pas parler. Mais quelqu'un qui parle, il arrive à trouver des réponses, il arrive à faire des opérations mentales pour trouver les réponses quand on lui pose des questions, eh bien il va développer ses capacités mentales et intellectuelles beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a pas l'occasion de poser ses questions en général. Et ces questions aident l'enfant à connaître les valeurs qui sont dans son entourage, le comportement, l'akhlaq, l'qiyam, à connaître les valeurs. Il n'a pas encore compris la valeur de c'est quoi la véracité, c'est quoi le mensonge, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi le méchant et le gentil. Ce sont des choses qu'il ne connaît pas. Alors il pose des questions. Par ces questions, il comprend à distinguer le bien du mal, le bon du mauvais, le mensonge de la vérité, etc. Donc ça l'aide à connaître les valeurs dans son entourage. La question qui se pose maintenant, pourquoi beaucoup de parents négligent et ne répondent pas aux questions de leurs enfants et négligent les enfants quand ils posent des questions? La première cause, الاهتمام بالإجابات أكثر من الأسئلة. Des parents, certains parents s'intéressent plus aux réponses qu'aux questions. Lui pose des questions à son fils. Qu'est-ce que tu as fait, où tu as été, pourquoi tu as mangé, pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela. Mais quand l'enfant pose des questions, eh bien, il le nie. La deuxième cause qui met les parents dans la négligence des questions des enfants, c'est le fait que certaines questions sont étranges. Les enfants posent des fois des questions étranges. Tu dis, où est-ce qu'il est Allah? Hein? Tu lui réponds, tu lui dis, il est au-dessus du ciel. Tu dis, mais comment il est? Pourquoi il vient pas dormir avec nous? Des questions étranges. Mais quand le père, il n'a pas de réponse, la meilleure chose pour répondre à qu'est-ce qu'il fait, donc il croit que la meilleure chose pour ne pas, il ne répond pas. Au lieu de dire que, de donner une réponse qui est compréhensible par l'enfant, essayer de lui faire comprendre par les paroles qu'il comprend, par les exemples qu'il peut comprendre, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il le nie. Il peut même dire Allahu A'lam, il dit Adri, s'il ne connaît pas la réponse, il dit après je vais te répondre. Demain, Inch'Allah, je vais te répondre à cette question. Il va demander à un frère, à quelqu'un qu'il connaît, et lui dit, j'ai une question de la part de mon fils. Il prend la réponse, il va la transmettre à son fils. Mais lui dire, va jouer. La troisième cause, c'est la difficulté des questions des enfants. Des fois, il pose des questions difficiles. S'il dit au père, le père, il n'a pas de connaissance. Il lui dit pourquoi le soleil se lève à l'ouest, à l'est. Et le père, il ne sait pas. Pourquoi la pluie, elle tombe du ciel? Pourquoi la terre a bougé? La quatrième cause, c'est les questions qui sont un peu choquantes de la part de l'enfant. Il a muhrija. Et c'est des questions qu'il pose. Il dit, l'enfant, il vient chez son père ou chez sa mère, il dit, comment je suis né? Il pose ces questions. Comment je suis né? Ou bien, il dit, pourquoi tu es dans le même lit que ma mère? Et ça, c'est arrivé. Et ouais, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il y a des réponses à tout, mais il faut connaître les méthodes coraniques et prophétiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il parle des choses les plus intimes dans la vie conjugale. Dans le Coran, on lit les versets devant les parents. On n'a pas honte de les lire. Pourquoi? On lit dans le Coran des versets qui parlent des choses les plus intimes. Dans les textes du prophète Islam, il y a les choses les plus intimes que vous n'osez pas dire entre vous. On les lit dans le Coran et dans les textes devant tout le monde, dans un langage de pudeur, dans un climat de pudeur et de l'iman. Et aussi des fois, l'enfant est souvent, à un certain âge, il pose trop de questions et le père il est dépassé. Il pose, ou bien la mère aussi, elle est dépassée. Il pose trop de questions. Question après question. Pourquoi tu as une barbe? Pourquoi ma mère n'a pas de barbe? Pourquoi tu vas à la mosquée? Avant que tu termines ta réponse, il aura déjà donné une troisième question. Pourquoi hier tu m'as dit ceci? Pourquoi demain on va pas au parc? Mais pourquoi tu portes l'abaya? Trop de questions. Alors le père, il en a marre, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye, s'il a sabre bien sûr, il essaye d'utiliser un peu de son intelligence pour fuir les questions de son fils. Que dois-tu faire Il vient te poser des questions, il faut l'écouter, l'encourager, lui dire, je vous le dis, viens ici, c'est quoi ta question? Laisse-lui poser sa question. S'il est bien posé, tu réponds à sa question. Si elle est mal posée, tu essaies de le corriger. Tu n'as pas de réponse, tu lui donnes un autre jour pour lui répondre à ses questions, etc. Et aussi, il faut diversifier dans l'entourage de l'enfant. C'est une chose qui est très positive d'avoir beaucoup de choses qui poussent l'enfant à poser des questions. Avoir des livres à la maison, avoir des cassettes, avoir des objets, avoir des choses que l'enfant aime. Et essayer d'encourager l'enfant à découvrir ce qu'il y a à la maison pour qu'il pose des questions. À diversifier ce qui se trouve dans la maison. Que ce soit les objets, que ce soit les gestes qu'on fait. Une fois tu pries devant lui, une fois tu lis le Coran devant lui, une fois tu t'assis discuter avec ton épouse et avec tes enfants. Cette diversification va pousser cet enfant à poser encore plus de questions. Et une chose très importante à faire face à ces questions, c'est de lui faire sentir que ces questions t'intéressent. Même s'il pose des questions très très bêtes, à tes yeux, il faut lui faire sentir que tu es intéressé par ces questions. Ne lui dis pas comme disent certains parents, et on a entendu ça plusieurs fois. Il dit, il a deux enfants, devant tout le monde. Il les appelle, il prend un de ses enfants, il le met sur ses genoux, il dit, هذا ولدي هذا هذا ما شاء الله il est طوار il est معقل اما هذاك هذاك بغلو صافي. Il est bête devant tout le monde. Toujours dans l'échec. Il ne sait rien faire. Comment il va grandir cet enfant? Il va haïr son frère. Il va haïr son père. Il va haïr même les musulmans. Il va essayer de se venger à l'extérieur de la maison. À cause de ça. Le cinquième point, c'est de répondre, de donner à l'enfant une réponse qui lui convient. Qui te pose une question à un enfant de 3 ans, 4 ans, qui te pose une question, tu commences à philosopher. À lui parler, je ne sais pas de qui. Un tel a dit qu'il y a Khtilaf. Khtilaf, c'est un enfant de 3 ans, mon frère. Il a 3 ans. Il y a l'Ikhtilaf. Lui, il ne connaît pas l'Ikhtilaf. Ou le Rajih. Il n'y a pas de Rajih. C'est un enfant, mon frère. Quels sont, le dernier point, quels sont les facteurs qui interviennent dans la quantité et la qualité des questions de l'enfant? Quels sont les facteurs? Le premier, c'est l'âge. L'âge de l'enfant joue pour beaucoup dans la nature des questions que l'enfant pose et dans la quantité des questions. Plus l'enfant a un certain âge, plus il grandit, plus il pose des questions. Et les questions sont diversifiées. Aussi, la capacité mentale de l'enfant, elle joue pour beaucoup, pour la nature et la quantité des questions. Le mustawa al-aqli al-tifl yu'assir fi 'adad al-as'ila wa tabi'at al-as'ila naw'iyat al-as'ila al-'umr. L'envie de participer avec les autres. Plus l'enfant a envie de participer, plus il va poser plus, des questions. Il y a des enfants qui ne sont pas intéressés, ils ne sont pas attirés par la participation avec les autres. Si les autres parlent, il est isolé dans un coin. Si il joue, il est isolé dans un coin. Mais il y a beaucoup d'enfants qui veulent participer. Il te voit écrire, il veut écrire. Il te voit marcher, il veut marcher. Il te voit dormir, il vient te déranger. Il veut être partout. Participer dans toutes les, dans tous les jeux, dans toutes les actions que tu fais, dans tout ce que tu fais, il veut être présent. Une chose qui est tout à fait normale, il posera plus de questions que quelqu'un qui n'est pas participé avec ses parents, ses frères et sœurs, etc. Et des fois, c'est à cause de certains problèmes psychologiques. Quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, en général, il ne pose pas trop de questions. Il est renfermé, calme, et chez nous, c'est le meilleur. Hein? Certes, masha'Allah. Il te dit, Allah, si tu le laisses, pendant 24 heures, il ne bouge pas. Ce n'est pas un être vivant s'il ne bouge pas. Ce n'est pas toujours le cas qu'il est malade. Non, mais des fois, il faut voir pourquoi ce n'est pas normal. le fait qu'il pose des questions, qu'il bouge, qu'il cache certaines choses, il est actif. Ça va l'aider à développer ses mouvements, son langage, ses capacités mentales, etc. Mais quelqu'un qui est dans un coin calme tout le temps, calme, il ne sait rien, il ne bouge pas, il ne pose pas de questions, à l'âge de 14 ans, vous allez voir qu'est-ce qu'il va devenir. On dit en Darija, Khadm el-Wed sec. Hein? On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Tout est calme à la surface. Et un jour, ça va déborder. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وبارك الله.
On commence avec la question: de quelle façon le père peut-il corriger, il met entre parenthèses, frapper son enfant de plus ou moins 2 ans lorsqu'il fait une bêtise? Sinon, que doit faire le père dans ce cas? Quelle est la meilleure façon? Car j'ai peur d'être un peu trop dur avec mon fils. Alors dans la question, il y a déjà la réponse. Le père, il sait pas très bien ce qu'il doit faire avec son fils. Il est déjà inquiet. Il dit que j'ai peur d'être un peu trop dur. Naam, t'es trop dur avec ton fils qui a que 2 ans. En ce qui concerne l'éducation par l'entremise des sanctions, il faut aller, comme on l'a dit, étape par étape. Et pour arriver à frapper son enfant, premièrement, pas à l'âge de 2 ans parce qu'il ne réalise pas encore ce qui est le bien du mal. Hein. Pour lui, dans sa petite tête, il ne représente pas encore très bien et il n'a pas acquis tout ce qui est nécessaire pour pouvoir distinguer le bon fondé d'une chose et le mal fondé. Donc d'abord lui apprendre tout ça étape par étape, l'aham bil-aham billati hiya ahsan, avec douceur. Et il est clair qu'il y a des enfants qui ont besoin de pères qui aient une certaine présence physique, mais pas à l'âge de 12 ans. Donc si le père doit être présent physiquement, pour pas dire autre chose, ça doit être vraiment la dernière des choses, après avoir essayé tous les moyens nécessaires pour faire comprendre son message à l'enfant. Wallahu a'lam.
La question, peut-on se dire, il y a deux questions qui se ressemblent. C'est des questions à propos des enfants. Jazakallah khair pour l'intervention. Allah merci. Les deux questions qui se ressemblent sont des questions qui tournent autour des enfants. C'est des couples qui ne veulent pas, ou bien le mari ne veut pas avoir d'enfant. Il dit, parce que nous sommes dans un pays de koufar, et ne pas avoir d'enfant. Et la sœur, elle se demande, est-ce qu'il a raison de le faire? Ou bien si le frère décide de quitter ce pays demain ou l'année prochaine, bien c'est bien. Mais s'il va rester ici 15 ans et dire chaque fois que je préfère ne pas avoir d'enfant, mais la mère, la femme, a le droit aussi d'être une mère et de vivre son rôle en tant que mère, d'avoir des enfants, de les éduquer, pas à l'âge de 60 ans qu'elle va commencer à éduquer un enfant de 9 ans et de 10 ans, et le père il aura 70 ans, il aura un enfant qui est âgé d'un an. Donc c'est un droit tout à fait légal pour la mère d'avoir des enfants si le père reste ici pendant des années et des années. Alors que même certains frères utilise ce moyen comme prétexte pour ne pas avoir des enfants pour d'autres raisons, non pas parce que le pays n'est pas un pays musulman, mais ils ont aussi d'autres raisons qui ne sont pas souvent acceptées par l'islam, et on a eu des cas de ce genre de frères. Une autre question, c'est comment choisir son conjoint, bien sûr demander après l'islam. Bien, pour répondre à la question, il y a une cassette qui s'appelle « Comment choisir son épouse ou bien son conjoint ». Vous pouvez la voir ici dans l'association.
Donc, Adil fait référence au mariage réussi. Ok, il y a une autre cassette à prendre. Donc, une question qui ressemble à celle-ci. « Je ne veux pas avoir des enfants 2 ans après mon mariage pour pouvoir, premièrement, étudier plus facilement la religion. » Alors, il est clair que tu sais rassembler ton désir pour l'ilm shar'i et pour les enfants, évidemment. Parce que le droit des enfants, ce n'est pas le droit de l'un des deux époux. C'est pas le droit de la mère uniquement ou le droit du père uniquement. C'est un droit des deux parents. Hein? Donc la mère qui dit « je ne veux pas d'enfants », ce n'est pas son droit à elle seule. Hein? D'accord. Pour le reste de la question, je renvoie à la réponse de Adil. Il vient de donner. Alors, les parents sont-ils fautifs vu leur ignorance? Bien sûr. Alors, mes parents m'ont tout appris en ce qui concerne l'islam dans mon enfance, mais malgré ça, je me suis retrouvé dans la rue à 15 ans. Qui est responsable? La société, ou bien l'enfant, ou bien les parents? Alors, dans l'étude de ce type de composantes, c'est pas un facteur qui est responsable d'une chose, mais c'est bien la synergie des facteurs qui font que qu'on arrive à ce genre de malheur. Alors, si tes parents t'ont éduqué, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, si tes parents t'ont donné une bonne éducation islamique, tu es dans le cas du fils de Nuh, hein. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, tes parents sont responsables et tout le débat que nous avons fait le prouve. Mais comme apparemment tu es assez jeune, donc adore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te guide vers son bon chemin et que pour que toute ta vie future soit dans sa soumission totale. Alors, pensez-vous que pour éviter la mauvaise influence de l'école, au point de vue éducatif, faut-il qu'il n'aille pas à l'école, ou alors que conseillez-vous? Alors ça dépend des capacités des parents. D'abord, l'école ici en Belgique n'est pas obligatoire, c'est l'enseignement, il y a une nuance. C'est l'enseignement qui est obligatoire et pas l'école. Mais encore, faut-il que les parents aient suffisamment de capacités intellectuelles, relationnelles, etc., pour donner une suffisante éducation à leurs enfants. Ce qu'apporte par rapport à une éducation, une scolarité à la maison, ce qu'apporte la scolarité à l'école, c'est bien sûr le contact avec les autres enfants. S'il y a d'autres institutions qui permettent aux enfants de rencontrer d'autres enfants et que bien sûr les parents sont suffisamment compétents, pourquoi pas. Et même j'invite les parents à le faire. Alors, est-ce obligatoire d'apprendre la langue arabe pour éduquer les enfants? Bien évidemment. Il faut faire un effort. On a parlé tout à l'heure de la langue, des mères qui doivent parler à leurs enfants en langue arabe. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est la langue du Coran, évidemment. C'est la langue de nos parents. C'est la langue de l'éducation musulmane. Et que pour apprendre, c'est déjà un non-sens que d'apprendre la religion dans une langue qui n'est pas celle de l'islam. Il y a les darura taban. Ou pour se rapprocher alors et pour apprendre la langue arabe. Alors, devons-nous mettre un enfant à 2 ans et demi au jardin d'enfants où il faut attendre jusqu'à l'âge de 6 ans? Donc, il est vrai que de nos jours, il n'y a pas d'école musulmane, mais il y a le centre islamique. C'est difficile de répondre. Enfin, moi, l'enseignement est obligatoire ici à partir de 6 ans, hein. Encore une fois, si à la maison tu es suffisamment compétent que pour donner à ton enfant tout ce qui lui sera nécessaire en matière de compétences pour l'enseignement en primaire, évidemment garde-le près de chez toi tout en investissant la composante sociale, c'est-à-dire la relation enfant-enfant. Et puis, comme le dit la question, il y a le centre islamique. Je ne fais pas la propagande, mais... On prend qui veut. À quel âge peut-on apprendre la crainte d'Allah? Alors, à ton enfant. La crainte d'Allah de ton enfant passe par ta crainte à toi. Hein? Donc, la crainte d'Allah passe par ta crainte à toi. Si toi, dans ton modèle encore, tu crains Allah Azza wa Jal et que tu lui montres, yani, que tu ne dois pas faire du mal à ton voisin et que tu, dans des choses très simples, encore une fois, Adi nous a parlé de s'exprimer avec les enfants dans leur langage qui leur est propre, un langage simple, hein, il faut pas philosopher, dans un langage très simple, tu leur expliques la peur d'Allah Azza wa Jal. Si je travaille plus ou moins 15 heures par jour, est-ce que je dois choisir entre mon travail ou bien ma famille? Alors, si tu peux rassembler entre ton travail et ta famille, mais avec 15 heures par jour, c'est pas possible. Donc, tu dois d'abord trouver un travail qui puisse te permettre de rassembler entre ces deux choses. Si tu sais pas, choisis ta famille après.
Peut-on appeler un enfant Bakr et non Abu Bakr?
Bien, si on peut appeler Abu Bakr, on peut appeler Bakr. Abu, c'est Abu, le père de Abu Bakr. Bakr, c'est un nom arabe qui est tout à fait correct et qui est permis en islam. Les noms des prophètes, bien sûr, les noms des prophètes sont tout à fait permis en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme nom à son fils Ibrahim. Ibrahim, c'est un nom de Ibrahim alayhi salam. La même dit dans un texte sallallahu alayhi wa sallam que Banu Israël donnait à leurs enfants les noms des prophètes. Kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim. Donc il est tout à fait permis et recommandé de donner les noms de prophètes et messagers. Sabrin. Celui qui a posé ou celle qui a posé la question, il dit: est-ce qu'il est permis de donner le nom de Sabrine, car elle est dans le Coran? En tout cas, le Coran que j'ai lu, j'ai jamais trouvé Sabrine. Si c'est un Coran de Moussaïlima, ça c'est autre chose. Il n'y a pas Sabrine dans le Coran. Il y a Sabirine dans le Coran. Sabirine, ceux qui montrent l'endurance, font preuve d'endurance et de patience. Sabirine, il n'y a pas Sabrine. Sabrine, c'est les frères qui choisissent son nom. Souvent, c'est pour... vous avez compris, vous savez pourquoi ils choisissent Sabrine. Sabrine. Il y a assez de noms qui sont arabes et musulmans que d'aller choisir un nom qui, comme Sabrine, qui est mélangé de sabre, si on veut jouer avec les mots, et d'un nom qui n'est pas... Et surtout pour quelqu'un qui est arabe. Quelqu'un qui est arabe à l'origine, il va choisir des noms qui ne sont pas arabes. Et quand je dis qu'ils ne sont pas arabes, qu'ils ne sont pas arabes ni arabisés par après. Il va aller s'appeler Jacques, alors que lui, il est arabe. Il vient de Tanja, Tétouan, Nador, il va s'appeler Jacques. Il va dire, oui, mais c'est pas haram. Non, les ulama, ils ont interdit ce genre de nom. Il y a une question à propos de la circoncision, khitan. La circoncision est recommandée le 7e jour. Elle est permise jusqu'à l'âge de la puberté. Et à l'âge de la puberté, elle devient obligatoire. Parce que là, il va commencer à devenir responsable islamiquement, à accomplir les obligations et les prescriptions. Et comme dit Ibn al-Qayyim, à ce moment-là, il aura des impuretés sur son organe qu'il ne peut pas purifier en gardant le morceau qu'on coupe dans la circoncision. Il dit que ça devient obligatoire de faire la circoncision à la puberté. Une autre question qui dit, j'ai choisi mon époux, il était convenable, mais quelques temps après, la question est longue, il a changé de caractère, il a gardé sa prière, il prie toujours, mais il a une mauvaise fréquentation et il ne s'intéresse pas à l'éducation des enfants, etc. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Sabr, la première chose à faire, c'est sabr, la sagesse, le hikmah. Essayer de parler avec ton mari, de lui rappeler les textes du Coran et les textes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, j'insiste toujours sur les textes du Rasul sallallahu alayhi wa sallam et du Coran al-Karim, sans aller chercher en premier lieu dans autre chose. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas la crainte d'Allah azza wa jal, notamment dans les relations, dans le couple, eh bien, souvent, les interventions de conciliation sont vouées à l'échec. Il faut avoir l'iman, il faut avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal pour changer, se débarrasser des défauts qu'on a, s'écarter de la mauvaise fréquentation, se débarrasser des péchés, etc. Il faut avoir l'iman. Il faut travailler, il faut faire un effort de la part du mari. La femme doit l'aider, mais lui aussi doit faire un effort. Il n'y a pas une solution, comme on dit, magique. On lui dit, akhi taqillah, et c'est fini. S'il ne veut pas craindre Allah Azza wa Jal, il faut le secouer. Et lui faire dua aussi. Faire dua à Allah Azza wa Jal, de demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala le ramène sur la voie droite. Les poupées, quel est le jugement, l'avis de l'islam ou bien le caractère juridique des poupées? Est-ce qu'on peut utiliser les poupées? Naam, on peut utiliser les poupées comme l'a utilisé Aïcha radiallahu anha. Elle jouait avec, comme dans le hadith sahih, tal'abu bil banat, banat avec les poupées. Naam, on peut utiliser les poupées pour un enfant.
certains savants aujourd'hui, ils mettent comme condition qu'elle ne soit pas des poupées comme celles qu'on voit maintenant. Elles sont tellement bien faites qu'elles parlent, hein. Elles parlent, elles ressemblent presque à un être humain. Certains savants, ils disent que ce genre de poupées sont à éviter, sans pour autant dire que c'est haram. Ils disent que elles sont à éviter, sans pour autant dire que c'est haram. Sinon, la poupée, à l'origine, reste halal pour un enfant jouer avec. Non pas mettre accroché sur un mur, mettre sur des cheminées.
Une femme crie sur son enfant juste pour voir si son enfant comprend ou pas. Quel conseil peut-on faire à cette sœur? Alors, n'oubliez pas, il y a une règle, c'est que les parents sont le miroir de leurs enfants. Si tu cries sur ton enfant, donc il va investir cette facette, et lorsque il grandira, ça sera la première facette que tu vas retrouver chez lui, et la première composante, et il va commencer bien sûr à crier sur toi lui aussi. Donc il y a al-hikma et la douceur, et le premier conseil qu'on peut donner à cette sœur, évidemment. Alors l'éducation avec la mère, apparemment ça va, avec le père c'est plus difficile, l'enfant ne répond plus facilement, à la mère qu'au père. Alhamdoulilah d'abord qui répond à un des deux parents, à Dinéama. Ça aurait été un problème s'il ne répondait à aucun des parents. Moi, il répond à la mère, au père de savoir et d'être suffisamment intelligent que pour il repère quelle est la cause en fait de malentendu avec son enfant. Il regarde aussi la manière dont la mère agit avec son enfant pour savoir en fait les raisons qui poussent l'enfant à aller plus vers la mère que le père. Il est important ici que le fossé ne grandisse pas entre le père et l'enfant. Alors si on a à l'âge de la puberté un prénom qui ne correspond pas à la législation islamique, par Mohamed, comment doit-on faire pour y remédier? Mohamed, c'est le diminutif de Mohamed. Fais-toi appeler Mohamed. Yani, donc il s'appelle Mohamed. Yani, fais-toi appeler Mohamed. Quand les gens t'appellent, c'est Mohamed. Une question un peu difficile, je la donne à Adil. Donc, comment faire alors si tout ou presque tout dans cette société mène à l'opposé de l'éducation islamique, comme les écoles, la société, la rue, les médias, etc. Est-ce que nous, en tant que musulmans dans ce pays, nous ne courons pas un jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au milieu dans lequel nous éduquons nos enfants? Et que faut-il faire?
Certainement que nous serons interrogés en mon qiyama par le fait que nous nous trouvons dans un tel pays, et au moins le conseil que je donne à chacun et à chacune, au moins de faire un effort et de ne pas attendre qu'on soit à Médine ou à la Mecque, de faire un effort le temps que vous êtes encore ici, de faire un effort de sauver les milliers d'enfants qui sont perdus, de construire des écoles, de construire des associations, de construire des endroits pour les jeunes, des complexes sportifs s'il y a moyen pour les jeunes, selon les règles de l'islam, de faire toute l'infrastructure qui est essentielle, qui est nécessaire pour ces enfants et pour cette jeunesse, et de ne pas attendre jusqu'au jour où les enfants auront 20 ans, 25 ans, ils seront perdus, et à ce moment-là dire que maintenant alhamdoulilah j'ai décidé de partir. Ils seront déjà perdus. Il faut faire accomplir ses obligations, accomplir ses devoirs, faire ce qu'on peut, le maximum qu'on peut, on doit le faire. Aujourd'hui, avant demain. Envers nos enfants et envers les enfants de nos frères et sœurs. Par la parole, par la cassette, par le conseil, par le comportement, par la construction d'écoles, de secondaires, primaires, maternelles, etc. Faire tout pour sauver qu'on peut sauver. Mais sinon, tout le monde connaît les conséquences de cette négligence. Si une femme mutabarrija travaille, je lis la question, si une femme mutabarrija travaille, et laisse, c'est-à-dire une femme qui ne porte pas le hijab, travaille et ne laisse pas laisse son enfant chez une sœur multazima, c'est-à-dire qui pratique, celle-ci est-elle complice dans le ism, dans le péché de la femme, en gardant l'enfant
tout en l'encourageant à mettre le hijab. Eh bien, il faut voir tout d'abord la nature du travail qu'elle fait et pourquoi. Ça, c'est la première des choses. Si le travail est halal, si le travail est halal dans des conditions halal, elle n'est pas dans le péché. Si le travail n'est pas halal, eh bien, elle doit lui dire, moi, je ne peux pas t'aider à garder ton enfant pour que tu ailles faire une chose qui n'est haram. Elle est complice dans le cas où le travail est haram, et, ou bien elle n'a pas, ou bien son mari refuse qu'elle travaille, eh bien elle est dans le haram, elle ne doit pas l'aider en gardant son enfant pour qu'elle aille faire une chose qui est haram. Mais si la sœur accepte, elle fait un travail qui est halal, je dis si, et elle accepte de porter le hijab, mais c'est une question de temps. Elle lui dit, Inch'Allah, Inch'Allah, bientôt je vais le mettre, Inch'Allah, je vais le porter, Inch'Allah, Inch'Allah. Elle peut avoir sabr avec elle, le temps de lui faire comprendre la valeur du hijab, la sagesse qu'il y a derrière le hijab, etc. Inch'Allah, elle va l'aider à pratiquer sa religion. Mais si elle refuse, elle ne veut pas porter le hijab, mais ce qui l'intéresse, c'est d'apporter son fils et de le laisser chez la sœur, elle ne l'aide pas. Et c'est entre elle, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين وأشكر جميع الإخوة والأخوات je remercie tous les frères et sœurs pour leur participation et pour leur patience et sabr. Ce n'est pas une chose facile de rester à peu près 3 heures à attendre la fin de la conférence. Je le dis du fond du cœur que je remercie les frères pour leur participation et les sœurs pour leur participation. Je prie Allah Azza wa Jal de nous donner tous al-ajr al-hasanat pour cette participation entre frères et sœurs. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.